Chez Écoute et Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoute et Voir, optique et audition.
Mutualiste.
Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr.
14h sur Inter. Les dernières informations, Amélie Perrier.
C'est une avancée importante pour tous les enfants en difficulté placés en foyer ou en famille d'accueil. L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi pour leur garantir un avocat, texte porté par les socialistes. Grâce à cette loi, aucun enfant ne traversera seul les couloirs de la justice, s'est réjouie la porteuse de la proposition de loi, la députée PS Aïda Adizadeh. Environ 380 000 jeunes sont concernés, jusqu'ici placés ou bien suivis directement dans leur famille lorsqu'ils y sont maintenus. Il n'était pas assisté par un avocat. Un texte débattu au moment où la vidéo d'un petit garçon tondu par ses éducateurs dans un foyer parisien a été diffusée et a provoqué un tollé. Un feu rouge ou un feu vert, la cour administrative d'appel de Toulouse rendra son arrêt le 30 décembre pour dire si le chantier de l'autoroute A69 se poursuit ou pas. L'examen a eu lieu ce matin devant la juridiction. Le rapporteur public, ce magistrat dont le rôle est d'éclairer la cour et dont l'avis est en général suivi, a souhaité que le chantier continue. Au grand dame des défenseurs de l'environnement. Eux contestent l'intérêt général de cette nouvelle autoroute entre Toulouse et Castres et dénoncent les atteintes au milieu naturel. L'État condamné à payer 28 millions d'euros à l'assureur Allianz. Le tribunal administratif de Nouméa condamne les pouvoirs publics pour leur responsabilité dans les dégâts causés lors des émeutes de mai 2024. Il considère que l'État n'a pas mis en place un niveau raisonnable de sécurité, n'a pas écouté et tiré les conséquences des alertes émises par le Haut Commissariat de la République sur place, lors des émeutes provoquées par une réforme électorale, contestée par le camp indépendantiste, des commerces, des entreprises et des bâtiments publics avaient été pillés et incendiés, des dégâts estimés à plus de 2 milliards d'euros, 14 morts, les violences les plus graves depuis les années 80. 10 ans de sabotage climatique, voilà ce que l'on peut lire sur la banderole déployée par Greenpeace sur le Champ de Mars à Paris aujourd'hui. On y voit aussi les photos d'Emmanuel Macron, de Donald Trump ou de Vincent Bolloré, car, je cite le communiqué de l'organisation écologiste, les ONG ont voulu dénoncer les responsables du sabotage de l'accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre il y a 10 ans. Donc, ce traité international avait permis de fixer l'objectif de limiter le réchauffement climatique au plus près de 1,5 degré. Sauf que, selon le président du GIEC, lors de la COP30 en novembre dernier, il est désormais presque inévitable de dépasser 1,5 degré de réchauffement. Ce n'est pas le cas du Louvre, mais c'est un énorme cambriolage quand même au musée de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Plus de 600 objets ont été dérobés d'une importante valeur culturelle, précise la police britannique. Elle est à la recherche de 4 suspects, 4 hommes, et a diffusé des images de vidéosurveillance pour les identifier.
Le 28 décembre, France Inter fête les 70 ans du masque et la plume.
Rebecca Manzoni.
Émission en public depuis toujours, le masque, c'est vous. Racontez-nous votre histoire avec le masque d'hier et d'aujourd'hui, un souvenir, une image. Pour ça, il suffit de laisser un message au 01 56 40 64 04. 01 56 40 64 04 ou une note vocale via la page du masque ou sur l'appli Radio France.
Le masque et la plume.
Le masque et vous, racontez-nous.
France Inter, partenaire de Love Me Tender. Un film de Anna Cazenave-Cambet avec Vicky Krieps, Antoine Reinhardt et Monia Chokri.
Moi, j'ai des histoires avec des filles.
Lorsque Clémence annonce à son ex-mari qu'elle fréquente des femmes, sa vie bascule et on lui retire la garde de son fils.
Ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant.
Clémence va devoir se battre pour rester mère, femme et libre.
On va s'en sortir, maman, tu sais.
On va s'en sortir, mon amour.
Love Me Tender, actuellement au cinéma, un film France Inter.
France Inter, il est 14h04, à suivre la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vida.
Bonjour Amélie Perrier.
Alors au programme aujourd'hui,
l'âge du bronze, on va parler métal aujourd'hui.
Ah, parfait. Pas musique, hein, métal.
Non, non,
d'accord.
Non.
On vous retrouve dans 10 minutes tout de suite, c'est le fil de l'histoire avec Stéphanie Duncan.
Oui mes amis, la convention a enfin voté le procès de la putain couronnée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le quatrième épisode de notre série consacrée cette semaine au procès de Marie-Antoinette qui en octobre 1793 conduira à sa condamnation à mort et à son exécution. De quoi Marie-Antoinette était-elle coupable? C'est la question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté au début du procès de Marie-Antoinette le 14 octobre 1793. Un procès d'évidence truqué, politique et dont l'issue est écrite d'avance.
Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public près le tribunal criminel révolutionnaire établi à Paris, expose que, suivant un décret du 1er août dernier, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été traduite au tribunal révolutionnaire comme prévenue d'avoir conspiré contre la France.
Le 14 octobre 1793, dans la salle bondée du tribunal révolutionnaire, Marie-Antoinette, vêtue de sa robe de deuil rapiécée, coiffée d'un fichu de mousseline et d'un bonnet blanc, est assise face à l'estrade où siègent ses juges. C'est de là qu'elle entend l'acte d'accusation rédigé par Fouquier-Tinville qui inaugure cette année-là sa sinistre carrière d'accusateur public, pendant laquelle, estime-t-on, il demandera l'exécution de plus de 2000 prévenus. Véritable ramassis de préjugés et de rumeurs colportées sur Marie-Antoinette et avec elle toutes les reines de France, l'acte d'accusation donne d'entrée de jeu la tonalité du procès. Il résulte, je cite, qu'à l'instar des Messalines, Brunehaut, Frédégonde et Médicis, dont les noms à jamais odieux ne s'effaceront pas des fastes de l'histoire, Marie-Antoinette, la veuve de Louis Capet, a été depuis son séjour en France le fléau et la sangsue des Français. Qu'elle avait des rapports politiques avec l'empereur d'Autriche, que ces rapports étaient contraires à l'intérêt de la France, que non contente d'avoir dilapidé les finances de la France pour satisfaire à des plaisirs désordonnés et payer les agents de ses intrigues criminelles, il est notoire qu'elle a fait passer à l'empereur des millions qui lui ont servi et servent encore à soutenir la guerre contre la République. On le voit, aux accusations clairement politiques, se mêle l'expression de la violente misogynie du mouvement révolutionnaire.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Une misogynie qui trouve son expression la plus terrible à la fin du discours de Fouquier-Tinville. Enfin, la veuve Capet, immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, est si perverse et si familière avec tous les crimes qu'oubliant sa qualité de mère et les démarcations prescrites par les lois de la nature, elle n'a pas craint de se livrer avec Louis-Charles Capet, son fils, et de l'aveu de ce dernier, à des indécences dont l'idée et le nom seuls font frémir d'horreur. Interrogée sur cette accusation d'inceste qui sera répétée par le témoin Hébert, le pamphlétaire radical du père Duchesne, Marie-Antoinette reste silencieuse. Quand un juré lui demande pourquoi elle ne répond pas, elle explique « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » Cette réponse d'une honnêteté évidente aux yeux de tous sera reproduite dans la presse. Robespierre s'inquiétera d'ailleurs que cette accusation délirante et grossière n'attire la sympathie du public. C'est avec le même courage et la même dignité, tous les témoins en conviendront, que Marie-Antoinette, pendant tout le procès, fait face à ses juges. Malgré la fatigue, la solitude et le désespoir, l'ex-reine de France, qui a une haute idée de son rang et ne veut pas flancher, fait montre également d'une étonnante maîtrise politique. Comme elle est loin, la jeune reine légère, charmante et dispendieuse qui jouait à la fermière à Versailles. Emmanuel de Varesquiel, de quoi Marie-Antoinette est-elle accusée par le juge Hermann et comment y répond-elle ?
En travaillant sur ce livre que j'ai écrit sur le procès de Marie-Antoinette, j'ai découvert au grand dépôt des archives nationales, dans ce qu'on appelle l'armoire de fer, et qui est au centre, je dirais, qui fait le centre du centre de la mémoire de la France. Et j'ai retrouvé dans cette armoire de fer les pièces du procès, et entre autres, une minute manuscrite de l'interrogatoire conduit au cours du procès, probablement rédigé par l'un des huissiers du tribunal révolutionnaire. Et quand on lit ces notes, et qu'on les compare avec ce qui a été publié dans le Moniteur universel dans les jours qui ont suivi le procès, qui était un peu quand même aux ordres, je dirais, de la Convention et qui ressemblait un peu à la Pravda, on s'aperçoit qu'il y a de très très grandes disparités, à l'exception de cette réponse de Marie-Antoinette qui est notée dans le Moniteur. Mais je pense à certaines réponses de la reine, lorsque par exemple le président du tribunal, Herman, lui demande si par hasard elle ne voulait pas remonter sur le trône en quittant les Tuileries le 21 juin 1791 pour Montmédy, avec cette fameuse arrestation à Varennes entre-temps, elle lui répond du tac au tac, mais nous ne voulions pas remonter sur le trône puisque nous y étions. Elle est à la fois, nous l'avons dit, elle est à la fois accusée de complot, d'avoir comploté contre la République, et elle est accusée de trahison, d'avoir conduit des correspondances secrètes avec les ennemis de la République contre la République. Donc c'est cette double accusation qui n'est étayée d'aucun document qui lui est porté au cours du tribunal, mais ça va plus loin. Au fond, elle est accusée d'être une femme et une mère, et on l'accuse de ces fameux débordements financiers, ces fameuses orgies de Trianon, ces fameux convois d'or envoyés à Vienne. Et on finira au bout du bout, à la demande de Hébert, qui incarne l'aile gauche radicale de la Révolution à la tête du père Duchesne, qui prend la succession de Marat, en concertation avec le couple Simon, qui est chargé de la garde du petit dauphin, enfin du petit Capet, du point de vue de la Révolution à la tour du Temple, on finira par l'accuser d'inceste. Au fond, on ne peut pas reproduire un deuxième régicide sur la personne de l'enfant royal qui a 7 ans, et on va conduire une sorte de régicide moral à travers cette accusation d'inceste. Le petit Capet sera interrogé à la tour du Temple et finira probablement terrorisé par avouer ce qu'on lui demande de dire, c'est-à-dire qu'il aurait été... Il aurait été caressé, et qu'il aurait subi cet inceste de la part de sa mère.
Vous avez dit Emmanuel de Varesquiel...
Et de sa tante.
Vous avez dit Emmanuel de Varesquiel qu'il n'y avait pas de preuves, donc aucun papier prouvant la culpabilité de Marie-Antoinette. Mais à vos yeux, elle a quand même participé à comploter avec les puissances étrangères. Elle a fabriquer ces tentatives d'évasion, elle a communiqué des informations aux puissances étrangères, donc elle n'est pas innocente.
Elle compte, du point de vue de la République, elle ne l'est pas, bien entendu. Elle compte du point de vue au fond de la Révolution, parce que lorsque la République est proclamée, elle n'a plus aucun pouvoir de rien, elle est enfermée à la tour du Temple, mais tant qu'elle est aux Tuileries, elle mène une correspondance secrète, cryptée, avec Mercier Argenteau, qui est à Bruxelles, avec la cour de Vienne, mais elle a une position qui est au fond une position d'extrême prudence. Je vous ai dit qu'elle était en butte à la rivalité et de ses frères qui conduisent l'émigration et qui, eux, sont les partisans d'une entrée à main armée sur le territoire de la République. Elle ne l'est pas. Jusqu'au dernier moment, elle réprouve ce plan militaire de marche sur Paris de la part des armées coalisées.
Elle n'est pas à l'origine
Elle finira par s'y soumettre, si j'ose dire, dans les derniers jours de juillet 1792, quelques jours avant la prise des Tuileries, tout simplement pour sauver sa vie.
Elle n'est pas à l'origine du manifeste de Brunswick qui menace les révolutionnaires de répression.
Ni à l'origine de la fuite à Varennes, c'est le roi qui prend les décisions, ni à l'origine évidemment du manifeste de Brunswick. Un contre-manifeste avait été proposé par Mallet Dupan et Pellin, qui était un ancien secrétaire de Mirabeau, et qui allait au contraire dans le sens d'une préservation des liens qui pouvaient encore exister entre le roi et la nation. Donc, au fond, on est là dans les accusations qui lui sont portées, dans une version qui est la version de la Révolution et de la République, qui n'est pas forcément conforme à ce que l'on sait de ce qui a pu se passer au cours de ces années tumultueuses 90, 91, 92.
Donc selon vous, Emmanuel Varesquel, elle n'a pas fait passer de l'argent à l'Autriche
absolument
pour faciliter
pas,
son
pour
évasion ?
Non, ça relève absolument du fantasme.
D'accord. Merci Emmanuel Varesquel. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la fin de ce procès expéditif, la condamnation à mort et l'exécution de Marie-Antoinette. À demain, 14h.
Tout de suite, c'est l'heure de la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Stéphanie Duncan et à demain. Aujourd'hui, âge du bronze, quand le métal façonne les sociétés, raconté par...
Anne Loerf, professeur des universités à Cergy Paris Université.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
L'histoire des sciences a toujours été jalonnée de grandes controverses. Galilée face à l'Église, Darwin et l'évolution, la dérive des continents. Et à sa manière, l'âge du bronze en France a lui aussi été au cœur d'un affrontement scientifique majeur, car pendant longtemps, son existence même a été contestée. Tout commence au Danemark, lorsque l'archéologue Christian Jørgensen Thomsen propose, dès 1836, de classer les sociétés humaines en trois grandes périodes selon les matériaux dominants. L'âge de la pierre, l'âge du bronze donc, l'âge du fer. Cette idée rencontre un immense succès international. Elle s'inscrit dans une vision du progrès héritée des auteurs antiques comme Lucrèce, pour qui l'humanité avance d'un matériau à l'autre. Mais en France, cette classification suscite une résistance tenace. Dans les années 1870, une véritable querelle éclate, portée par deux savants aux visions radicalement opposées. D'un côté, Alexandre Bertrand, historien archéologue, directeur du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye à l'époque, qui considère que le bronze n'a jamais constitué une rupture sociale suffisante pour définir une époque autonome. Le bronze ne serait qu'un matériau parmi d'autres. Face à lui, Gabriel de Mortillet, géologue, préhistorien, défenseur acharné d'une histoire universelle fondée sur les faits, les objets et les stratigraphies. Pour lui, l'âge du bronze existe bel et bien en France, avec des types d'objets qui lui sont spécifiques. La confrontation devient publique lors du Grand Congrès international d'archéologie de Stockholm en 1874. Le débat est si vif d'ailleurs qu'il perturbe le déroulement même du congrès. Pendant plusieurs décennies, cette opposition va freiner la reconnaissance de l'âge du bronze en France, alors même que les découvertes se multiplient, que les fouilles révèlent de vastes réseaux d'échanges, de villages, de production métallurgique. L'âge du bronze peine à s'imposer dans les esprits hors du cercle des spécialistes. Il faudra donc attendre le début du XXe siècle pour que l'âge du bronze soit pleinement intégré comme une période historique à part entière, même si cette période reste parfois encore aujourd'hui marginalisée dans les grands récits historiques, coincée entre le néolithique et l'antiquité. Maintenant que cette époque a quand même conquis sa place dans notre histoire, il est temps d'entrer dans ce monde de métaux, d'échanges, de villages et de mutations profondes. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Anne Loerf.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous publiez L'âge du bronze, tout simplement, aux éditions Que sais-je. C'est donc vrai que c'est un petit peu castagnier chez les scientifiques du 19e pour imposer l'âge du bronze en France ? Une belle controverse à la française ?
Alors, il y a eu effectivement une belle controverse à la française. À partir du moment où Thomsen a proposé ces trois périodes, la tripartition âge de la pierre, âge du bronze, âge du fer, une partie importante de l'Europe a accepté effectivement ce système de classification. Il y a eu des résistances en Allemagne et c'est surtout en France où effectivement la controverse a été très violente.
Ouais. Et comment vous l'expliquez alors au fond ?
Alors, je pense que ça s'explique, il y a plusieurs facteurs. Alexandre Bertrand est un classique, un normalien, helléniste, premier directeur du musée d'archéologie nationale. Et face à lui, Gabriel de Mortillet est géologue, donc appartenant à un autre univers, à une autre sphère. Et donc, ce sont des confrontations de deux approches, finalement, de l'histoire qui se font. Et l'âge du bronze, au milieu, d'une certaine manière, qui est à la fois ni préhistoire, ni tout à fait histoire ou antiquité, en fait, les frais, avec l'un qui veut lui trouver une place finalement normalisée dans l'Europe, et puis le second qui, lui, veut rester finalement très méditerranéo-centré et veut que la civilisation vienne de la Méditerranée, et donc il va refuser cette place à l'âge du bronze dans les chronologies françaises.
Et ça reste encore un petit peu brouillé, finalement, dans les esprits, parce que autant le néolithique ou l'antiquité, on sait à peu près de quoi il s'agit. L'âge du bronze, pour le situer temporellement, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein.
Alors, c'est plus difficile parce que, finalement, le néolithique a acquis une place. Il a intégré les programmes scolaires, ce qui lui donne aussi une forme de reconnaissance, suivant la préhistoire, après la préhistoire. Et puis, l'Antiquité, ça fait partie des bases. On continue à, aujourd'hui, envisager l'histoire selon les quatre périodes de l'histoire.
Ouais.
Et l'Antiquité y a évidemment sa place. Et puis, avant l'Antiquité, en France et en Europe de manière plus large, on a un peu l'antichambre de l'histoire avec l'âge du fer, les Gaulois, les Celtes, qui sont racontés dans les textes antiques. Et l'âge du bronze, c'est ni tout à fait la préhistoire, ni tout à... Et donc, c'est cette période d'entre-deux où on n'a pas une révolution comme par la naissance du monde agricole que voit le néolithique. Et puis, on n'est pas dans ce temps qui précède qu'on qualifie en général d'histoire. Et donc, effectivement, ça reste encore aujourd'hui une période qui, pourtant, si on ne considère que l'Europe occidentale, c'est quand même 1500 ans d'histoire. Ouais. Donc c'est
alors, justement, si on doit la dater pour donner un repère à nos auditeurs et auditrices, ça commence quand, ça finit quand? Quand on parle de l'Europe, en plus, parce que selon les régions du monde, ça change. Hein.
Selon les régions du monde, ça change si on considère effectivement l'introduction du bronze, auquel il faudrait mettre un pluriel, on va dire des métallurgies complexes, des alliages cuivreux, en fait, de manière plus globale. Les régions, la chronologie n'est pas tout à fait la même selon les régions qui adoptent ces métallurgies, parce que le monde entier ne les adopte pas. Et pour ce qui est de l'Europe occidentale, on est entre 2003-2002, pour le début, véritablement, et on va jusqu'à 800 à peu près avant notre ère.
Qu'est-ce que ça a changé, justement, de bien classifier les choses pour l'archéologie, précisément?
Ça permet de donner des repères. On a besoin, finalement, d'une certaine manière, quand on parle d'une période, de pouvoir la positionner, à la fois spatialement et chronologiquement. Et donc, le fait de donner un nom et de la poser dans le temps, ça permet de se repérer. Les classifications sont toujours des outils qui sont à la fois commodes et imparfaits. Ça vaut pour l'âge du bronze, ça vaut pour le néolithique, ça vaut pour le Moyen-Âge. Il y a toujours des débats sur et pourquoi on mettrait le début là, et pourquoi on mettrait la fin là, et comment est-ce qu'on qualifie. Donc évidemment, ça ne suffit pas. Et le fait de qualifier une période avec un matériau, aujourd'hui, ça ne suffit évidemment pas à résumer une société. Mais c'est un outil, c'est une aide, c'est un cadre avec lequel on va travailler.
Ouais. Si on parlait d'aujourd'hui ou si on se projetait dans le futur avec les archéologues, je ne sais pas, dans 1000 ou 2000 ans et qui regardaient notre période d'aujourd'hui, quel serait le matériau, à votre avis, qui caractériserait ce que nous sommes actuellement?
L'âge du téléphone, l'âge de l'ordinateur.
Ça pourrait être ça.
On est quand même l'âge de l'écran. On est quand même très largement conditionné par une vie avec les écrans. Donc peut-être on peut mettre l'écran.
Est-ce qu'il y a un moment charnière, enfin un moment vraiment qui marque l'entrée dans l'âge du bronze? Est-ce qu'il y a un site, un objet où on peut dire en Europe, c'est vraiment le début, c'est la première fois qu'on le voit apparaître? Ou est-ce que c'est très compliqué, finalement, d'avoir une date de naissance?
C'est très compliqué dans la mesure où, comme pour toutes les inventions, on voit qu'un résultat qui, finalement, aboutit. Et avant que ça aboutisse, il y a forcément des essais, il y a forcément des ratés. Donc, il y a forcément des choses qu'on ne voit pas. Donc, il nous manque...
C'est la proto-histoire de l'âge du bronze.
C'est en tout cas les prémices et les essais. Il y a toujours des gens qui essaient des trucs et des machins. Il y a les bricoleurs, il y a ceux qui ont envie de trouver des solutions. Donc, il nous manque une partie de tout ça. On voit arriver un résultat avec des poignards, avec des hallebardes, et puis avec la naissance, alors pour l'Europe occidentale, entre 1700 et 1600, la naissance d'un objet très particulier qui est l'épée, par exemple, et qui ne peut naître qu'avec une métallurgie des alliages cuivreux. Vous ne pouvez pas fabriquer une épée qui soit fonctionnelle juste avec du cuivre. Donc là, on voit effectivement des réalités, et puis la métallurgie des bronzes, selon les alliages, selon les fabrications, va donner des sens à des objets d'une très grande diversité. Mais ça, c'est au cours du deuxième millénaire.
Ouais. Mais Anne Leur, ça veut dire que symboliquement, on entre dans l'âge du bronze avec un outil de combat?
Ça fait partie, effectivement.
C'est un drôle de truc, quand même.
C'est un drôle de truc. Mais c'est une réalité. Oui, parmi le premier objet véritablement inventé en alliage cuivreux qui n'existe pas avant dans d'autres matériaux, c'est il y a effectivement l'épée.
Ouais. Et ça raconte beaucoup de la société de l'époque, ou de ce qui va se passer en tout cas avec l'usage précisément de ces métaux.
Alors ça raconte, heureusement ça ne résume pas ces sociétés, ça c'est quand même heureux, mais ça raconte une nouvelle forme de guerre qui est finalement assez logique avec les sociétés bronzières qui adoptent cette...
Les sociétés bronzières, c'est joli ça hein.
C'est une expression finalement française qui correspond à une collègue scandinave, tout vient de Scandinavie visiblement pour l'âge du bronze, a proposé le terme de bronzisation. C'est un terme compliqué à dire en français.
Oui, la bronzisation, c'est pas joli. Ouais.
Et c'est pas joli en plus en français. Donc, bon, ça, c'est assez signifiant. Mais c'est vrai que société bronzière, dans la langue française, est peut-être plus parlant, plus adapté. Et effectivement, ces sociétés-là, en choisissant d'adopter cette métallurgie complexe, parce que c'est pas une obligation. On peut vivre sans métallurgie. Et de nombreuses sociétés dans le monde ont continué à vivre sans métallurgie complexe. Les terres qui ont été les plus tardivement concernées par ces métallurgies, on peut penser par exemple à l'Australie, qui n'ont pas eu ces métallurgies avant l'arrivée des colonisateurs, finalement. Donc, c'est pas une obligation, c'est un choix. Mais à partir du moment où on fait ce choix, ça implique plusieurs choses et de manière assez large.
Ouais. Alors, qu'est-ce que, justement, ça change fondamentalement par rapport à des cultures qui n'ont pas utilisé précisément ces alliages ?
Alors, ça change la panoplie des objets qui sont utilisés. Et ça change également, finalement, le système... les sociétés elles-mêmes. C'est-à-dire que pour faire une métallurgie des alliages cuivreux, pour mélanger du cuivre, de l'étain et d'autres métaux éventuellement, dans un creuset, puis de le travailler de mille et une manières, il faut pouvoir réunir de la matière première qui n'existe pas forcément sur le lieu de fabrication, qui n'existe pas forcément dans les mêmes lieux. Donc se met en place un système d'approvisionnement de cette matière première. Il faut des artisans qui soient compétents pour le travailler. Il y a des commanditaires, il y a une société, donc il y a des bouleversements qui sont de nature économique et qui sont également de nature, on va dire, sociétale et politique. C'est-à-dire que ça rentre dans une organisation.
C'est ça, c'est pas juste le fait d'avoir des armes, des haches, des parures, ça bouleverse aussi la société, et ça c'est ce que les archéologues voient bien aussi, avec, vous l'expliquez dans votre livre, hein, l'évolution dans l'habitat, les pratiques funéraires, les échanges à longue distance, vous venez de l'expliquer. Donc tous ces indices-là, il raconte aussi les changements profonds liés à ces métaux.
Oui, c'est-à-dire que le métal, c'est pour ça que finalement la terminologie de Thomson, elle est extrêmement utile, mais aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. On envisage ces sociétés de manière beaucoup plus ample. Oui. Et effectivement, finalement, le bronze ou les bronzes, c'est un point d'entrée. Qui a des conséquences considérables à l'échelle des sociétés pour que ça puisse exister. C'est-à-dire que c'est un tout petit, c'est le dessus finalement de l'iceberg, le bronze. C'est un matériau qu'on a dans ces sociétés parce qu'il se conserve pas si mal, donc les archéologues l'ont, contrairement à d'autres matériaux. Et en même temps, résumer les sociétés bronzières à juste les objets en bronze, c'est très insuffisant.
C'est pour ça qu'il faut étudier aussi des sociétés humaines, parce que ça raconte énormément de choses. Hein.
En fait, l'archéologue qui est un historien, il va s'appuyer sur les données matérielles, dont évidemment le bronze pour l'âge du bronze, mais ce qui l'intéresse, ce sont les hommes qu'il y a effectivement avec, derrière...
Et les femmes,
c'est ce que j'allais dire, avec ce matériau, et qui raconte des sociétés. Ce qui nous intéresse, c'est quand même la mise en récit, la compréhension et la mise en récit d'une histoire plus globale, au-delà de nos données avec lesquelles on travaille.
Est-ce qu'à l'instar du néolithique, on peut parler d'une révolution justement des sociétés humaines, où on est plus dans un bouleversement, mais pas vraiment sur quelque chose de radical qui vient complètement changer ce qui a précédé ?
Alors, le terme de révolution est toujours compliqué, parce que le terme de révolution, il est attaché à l'idée de quelque chose de très brutal, d'un avant-après. Et même pour le néolithique, hein, on dit qu'on prend son temps, c'est long, c'est arythmique, les modèles sont différents selon les régions du monde, mais c'est vrai que à terme, d'une certaine manière, les sociétés humaines à l'échelle de la planète ont été très largement concernées par cette néolithisation, par ces néolithisations. Pour l'âge du bronze, il y a des mutations profondes.
Ouais.
Pour les sociétés qui sont concernées, avec des phénomènes qui ne sont pas totalement inédits, mais qui sont marqués par une intensification, un enrichissement, une diversification. Je pense aux échanges, aux circulations des hommes et des biens, par exemple. C'est aussi pour ça que l'âge du bronze est complexe à attraper.
On va en parler dans un instant, puisque justement la métallurgie a bouleversé les techniques et les sociétés, et on verra comment ça a impacté l'organisation des sociétés humaines, mais aussi les formes de pouvoir. Anne Leur, vous êtes notre invitée aujourd'hui. C'était Ethel sur France Inter.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Le bronze était le métal de l'époque pour façonner des outils, des armes et bien d'autres choses. Il était si important qu'il a donné son nom à cette période. Mais pour fabriquer du bronze, il faut de l'étain et du cuivre. Prenez 10% d'étain, 90% de cuivre, et avec un peu de travail, vous obtenez du bronze. On peut remplacer l'étain par de l'arsenic, mais c'est déconseillé, à moins de vouloir mourir très vite.
Extrait d'un documentaire, L'Apocalypse à l'âge du bronze, c'était sur France Télévisions en 2023. Anne Leurf, vous êtes historienne, vous publiez L'âge du bronze aux éditions Que sais-je, et pendant que nous écoutions cet extrait, vous me faisiez signe avec la main en disant « Non, il raconte n'importe quoi le gars qu'on entend ». Alors, comment on fabrique le bronze, cet alliage complexe, en fait ? C'est pas juste de l'étain et...
Non, alors en fait, s'il n'y a pas de... Effectivement, je faisais un petit signe.
En fait, cuivre et étain ?
Cuivre et étain, alors, c'est à la fois vrai et faux.
Ah, c'est-à-dire, quand même !
Ouais, c'est vrai et faux parce que le bronze peut être un alliage de cuivre et d'étain. Il peut être autre chose, c'est-à-dire qu'il peut être cuivre, étain et puis plomb, par exemple. Mm-hmm. Mais on peut aussi avoir du cuivre avec que du plomb et on peut avoir du cuivre avec de l'arsenic.
Oui.
Donc, c'est une métallurgie des alliages cuivreux complexes. Et même quand on met, par exemple, cuivre et étain uniquement, on peut décider de mettre 8%, 10%, 15%, 30% en fonction de deux paramètres principaux qui sont... le résultat auquel on a envie d'arriver, d'une part, et d'autre part, la chaîne opératoire de travail que l'artisan conduit pour obtenir justement le résultat auquel il veut arriver. Et la métallurgie des alliages cuivreux est, de mon point de vue, fascinante parce que justement, elle a cette diversité. C'est-à-dire que quand on étudie un objet, on n'est jamais sûr finalement du résultat auquel on va arriver dans l'analyse parce que les artisans font des choix à travers les métallurgies qui peuvent être d'une variété extraordinaire.
Il y a une diversité bronzière.
Absolument, hein, c'est exactement ça.
Énorme. Et donc, ça rend les choses d'autant plus intéressantes. Mais alors, est-ce que ça brouille pas également un peu les cartes pour les archéologues parce que un village peut utiliser tel alliage? Un autre, ou est-ce qu'il y a des signatures quand même très claires qu'on arrive à identifier ?
Alors, il y a des signatures, on va dire, régionales. C'est-à-dire que on va dire l'Europe occidentale ne travaille pas la métallurgie, visiblement, de ces alliages cuivreux, comme en Chine, par exemple.
Oui.
Il y a une métallurgie en Chine qui est extraordinaire, mais on se rend compte qu'elle n'est pas la même que celle qu'on a en Europe occidentale, par exemple. Donc, on a quand même des régions. Après, à l'intérieur, on a des surprises, mais c'est ce qui fait... Alors, je ne sais pas si ça brouille les pistes, mais c'est surtout ce qui rend intéressant et complexe. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, à l'âge du bronze, de faire des objets. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des artisans qui ont une expertise extraordinaire et c'est fascinant pour un chercheur. Le résultat, il n'est pas d'évidence. Donc il doit véritablement faire une enquête, il doit vraiment chercher, il doit arriver à se mettre dans la tête de cet artisan qui va devoir composer avec des réalités qui sont des réalités du matériau. En moyenne, le point de fusion d'un cuivre, c'est 1084. C'est 1084. Donc il est obligé de composer avec ça. Mais ensuite, il va choisir ses chemins à lui. Et ça, c'est vrai que c'est, du point de vue de l'historien et des techniques, c'est...
Sauf qu'il ne le sait pas que c'est 1084 à
Alors,
l'époque.
Alors, il ne sait pas parce qu'il n'a pas le thermomètre d'aujourd'hui.
Il n'y a pas de degré.
Oui, mais non, en fait. Parce que nous, on a des thermomètres dans nos appareillages, mais si vous travaillez... Moi, je travaille avec un bronzier, artisan du... compagnon du devoir, qui connaît la métallurgie depuis des décennies. Il n'a pas besoin du thermomètre pour savoir la température qu'il y a dans son creuset. Il suffit qu'il regarde, à la consistance, à la couleur, quasiment à l'odeur.
On a le point de fusion.
On a le point de fusion. Il sait parfaitement quand il doit verser son métal en fusion dans le moule de bronzier qu'il a préparé.
Anne-Laure, vous nous disiez tout à l'heure, pour produire du bronze, il faut le transporter et parfois sur de longues distances. De très longues distances ?
Oui. On peut des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres.
Oui. Et donc, ça crée aussi des routes commerciales ?
Oui, absolument.
Ça favorise aussi, à l'époque, ces échanges qu'on n'avait pas forcément avant ?
Alors, les échanges, on les a au néolithique. Hein. On a, par exemple, je pense à de la jadéite des Alpes qui circule sur des centaines de kilomètres. Mais ce qu'on voit à l'âge du bronze, c'est une intensification, quasiment une standardisation et une quantité, en fait, de matières premières échangées. Donc oui, on a des routes. Et ces routes, elles peuvent être maritimes et elles peuvent être terrestres.
Donc, mais on améliore aussi les transports eux-mêmes par les alliages ?
Alors, par les alliages, parce que, par exemple, l'alliage, ça permet d'inventer la roue métallique.
Oui, c'est ça, parce que la roue, elle existe. Mais là, on l'a fait en métal.
Et ça
change tout.
Ça permet, effectivement, d'avoir des roues qui sont plus solides, avec des charges plus lourdes à transporter.
Oui.
Voilà, ça change quand même de nombreux paramètres, en fait, pour ces sociétés.
Ouais. Et les bateaux, alors ? Pareil, ils peuvent emporter... beaucoup de quantité.
Oui, on a des bateaux. Alors, le problème des bateaux, c'est que la mer est très cruelle avec les bateaux. Elle les garde mal, les épaves. Alors, on en a. mais souvent le bateau lui-même est détruit, oui. Sauf cas extraordinaire. Alors pour l'Europe occidentale, on a le bateau de Douvres, qui est un bateau à bord cousu, qui a été très bien conservé, découvert à Douvres en 1992, qui est un type qui est connu pour cette époque-là, 1550 avant notre ère. Donc ça, on savait, on sait qu'il faisait la traversée régulière entre l'Angleterre et le continent, chargé probablement effectivement de matières premières. Donc on a des indices, on sait que ça existe, et il faut imaginer effectivement une Europe et un monde interconnecté.
Donc il y a un commerce maritime aussi. Hein,
oui, tout à fait.
Qui est très important et qui est lié aussi à ces marchandises et à ces échanges avec le bronze. Anne Lerf, vous aviez envie de nous faire entendre de la musique.
Oui.
Et vous m'avez même dit que c'est comme ça que parfois vous accueillez vos étudiants.
Oui.
Alors on va écouter de quoi il s'agit, on va tout de suite lancer la musique. Parce que l'âge du bronze, c'est pas que des épées, des poignards et des haches. Il y a aussi des instruments de musique.
Ouais.
Et ça, c'est important de le préciser.
Bah, en fait, c'est un côté positif de l'humanité de se dire que, effectivement, alors la musique n'est pas là non plus inventée à l'âge du bronze. On connaît de la musique dès le paléolithique.
Il y a des flûtes très anciennes,
voilà, exactement.
Par exemple. Hein.
Mais les instruments de musique qui se font grâce à la métallurgie, eh bien ça naît avec l'âge du bronze. Donc,
alors, comment s'appelle l'instrument là ?
Alors, on vient d'entendre des lourds.
On va les réentendre d'ailleurs, un petit coup de lourd.
Un petit coup de lourd.
Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à des grandes cornes, un petit peu. Alors, le son ressemble un petit peu à une corne de brume. Ce sont des longues cornes qu'on a trouvées justement en Scandinavie.
D'accord.
Qui font penser un petit peu, plus tardivement, on a des carnix qui sont un petit peu du même, ces grandes cornes métalliques. Et puis dans d'autres régions du monde, on a des tambours, par exemple, en Asie. Là, ça aussi, c'est la métallurgie du bronze qui le permet. Donc des instruments à vent métallique, et puis des instruments sur lesquels on va produire des sons en tapant dessus. Enfin voilà, ça ouvre la gamme des possibles de manière incroyable.
Alors les lourds, ça fait presque penser un petit peu aussi à ce qu'on entend dans le Tyrol, là, hein, avec ces instruments très très longs.
Absolument.
Et ça servait à quoi ? Ça servait à faire de la musique, ou ça avait aussi une fonction utilitaire pour... la communication entre populations ?
Alors, c'est très difficile pour ce qui est de l'Europe occidentale d'avoir exactement l'utilisation, puisque ce sont des sociétés qui nous ont laissé de la documentation matérielle, que l'archéologie utilise, avec laquelle elle enquête, mais on n'a pas de source écrite. Donc, évidemment, un certain nombre de détails et de récits précis sur des utilisations nous manquent. Donc, on est obligé d'avoir des hypothèses. Cela étant, sur les lourds, on a des représentations en Scandinavie, sur les pétroglyphes, et où on voit des représentations de joueurs de lourds sur des bateaux avec des danses. Donc, on a tendance à les voir peut-être dans des contextes alors du quotidien, on ne sait pas exactement, peut-être culturel, peut-être de guerre aussi, peut-être que les deux, finalement, il faut aussi les rapprocher. Le détail, on ne l'a pas. Ce qui est sûr, c'est que ça devait avoir une fonction précise.
Alors justement, puisque vous évoquez la guerre, est-ce qu'on peut dire que l'âge du bronze, c'est un âge de conflit, avec toutes les armes dont on parlait tout à l'heure ?
Alors, c'est un âge de conflit, ça, certainement. C'est difficile de dire le contraire, puisqu'on a des armes qui le disent. C'est un type de guerre très organisée, structurée par les États, que ce soit des sociétés bronzières, de l'écrit ou pas de l'écrit. Et puis on a, pour l'âge du bronze, ce site extraordinaire au nord de l'Allemagne, qui est un site de bataille à Tollensee.
Ben justement, on va écouter un petit extrait d'un documentaire d'Arte à ce sujet, on y revient juste après.
Le site de Tollens a bouleversé notre vision de l'âge du bronze. Auparavant, on pensait qu'il s'agissait d'une période pacifique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu des conflits à grande échelle.
Nous savons qu'en 1300 avant notre ère, un important conflit a entraîné la mort de nombreuses personnes. Nous avons un grand nombre de squelettes qui datent de cette période.
Anne Leher, cette bataille de Tollens, on dit qu'il s'agit de la première bataille connue sur le sol européen, donc en Allemagne. C'est exact ou pas ?
Alors, c'est pas, enfin, c'est la première pour laquelle on a une documentation effectivement archéologique de cette ampleur. Mmh. 1300, c'est relativement tardif pour les débuts de l'âge du bronze. Donc, il faut supposer qu'il y a eu d'autres champs de bataille dont on n'a pas la trace.
Ouais. On peut imaginer beaucoup de combattants sur ce champ de bataille à l'époque.
Ah oui, on a plusieurs centaines de combattants. Oui, oui, on a. Ouais. Et l'étude n'est pas finie. Donc, il risque d'y avoir une augmentation du nombre des combattants sur cette, sur
donc,
ce champ de bataille.
À partir des restes humains, hein, évidemment.
À partir des restes humains et des armes, parce qu'il y a eu un certain nombre d'armes qui sont restées sur le chantier. Mmh. Donc oui, c'est un site extraordinaire. C'est aussi là, un petit peu la magie de l'archéologie, c'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, on a des témoignages avec lesquels on fait des hypothèses. L'armement, on se dit, ben oui, ça devait quand même servir à quelque chose.
Ouais.
Mais on ne les voit pas en mouvement d'une certaine manière. Et puis, une découverte, et on se dit, ben si, là, on a un récit, on a quelque chose, et il faut imaginer que demain, sans doute, on aura d'autres découvertes qui viendront compléter sur la question de la guerre, mais on espère sur d'autres thématiques.
Anne Leur, vous êtes notre invitée pour parler de l'âge du bronze, et puis amis auditeurs et auditrices, bien sûr, vos questions, nous les attendons avec impatience. Vous pouvez nous rejoindre sur la page de l'émission, sur nos réseaux sociaux, et puis également sur l'appli Radio France pour entendre directement vos messages vocaux. C'était David Walters sur Inter.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On a fait des fouilles dans un grand ensemble monumental qu'on a appelé Thoréen, du nom de la civilisation thoréenne.
Qui remonte à quelle époque ?
Qui remonte vers 1600 à 1400 avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge du bronze de Corse. Nous avons trouvé des murs dont la voûte est tombée.
Je crois que vous avez trouvé également à Lévis un certain nombre de bijoux et d'armes.
Des bijoux en bronze, en
bracelet,
et des plaques mystérieuses, certainement à destination guerrière, de ceinturons.
Tout ça en bronze.
22 en bronze.
Voilà une archive de 1963 avec ce village corse, Anne Leurf, vous qui êtes notre invitée pour parler de l'âge du bronze avec cet ouvrage qui sort dans la collection Que sais-je. Là, on est vraiment à 700 mètres d'altitude dans cette région de l'Alta Rocca en Corse, un des plus importants sites monumentaux, dit-on, de l'âge du bronze.
Oui, alors en Corse, il y a effectivement des structures monumentales. Il y en a en Sardaigne aussi, par exemple. Mmh. C'est pas le cas de toutes les régions et de tous les types de villages et d'occupations.
Ouais.
On a, à l'échelle de l'Europe, on a surtout une architecture de terre et de matériaux périssables, plus que de... Voilà, que
ce qui n'est pas pratique pour l'archéologie.
Ce qui, pour l'archéologie, est un petit peu dur. Oui. Enfin, on peut toujours faire l'apologie du négatif de trous de poteau, mais c'est vrai que quand on a des...
Le négatif du trou de poteau.
Ben oui, parce qu'en fait, un trou de poteau, quand on creuse pour faire une maison, oui. Ben ça laisse une trace, en fait. Et donc, un archéologue qui sait regarder son terrain, il sait qu'il y a eu quelque chose là, qui a un certain diamètre, une certaine profondeur, et à partir de ça, ben, il va supposer...
C'est ça, mais c'est plus compliqué parce qu'il doit supposer, précisément.
Ben, en fait, il est obligé de faire preuve.
Il n'a pas la preuve matérielle.
Il a une preuve matérielle, mais il combine à l'imagination et à c'est son ça. Expertise. Et avec ça, il fait une maison. Et avec la maison, il fait un village. Et après, il fait un paysage. Et il refait l'âge du bronze.
Alors, quand on parle justement de cette période, vous pouvez, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez nous redire temporellement ce que ça veut dire
Alors, pour l'Europe occidentale, on est entre 2003-2002, avant notre ère, et à peu près jusqu'à 800.
C'est ça. Parce que c'est toujours important d'avoir un petit peu les dates en tête. On évoquait tout à l'heure des sociétés très différentes, très diverses, une sorte de mosaïque. Il n'y a pas vraiment, en fait, un modèle unique de société de l'âge du bronze. Ça, c'est important aussi de se le représenter.
Oui, alors ce qui relie ces sociétés bronzières, bah, c'est effectivement le matériau, qui lui-même apprend des formes diverses. Et donc, on a finalement des sociétés qui ont des trajectoires à ce moment-là, qui sont effectivement différentes. Ce qui est une forme de paradoxe, parce que ce qui les relie, c'est ce côté... C'est d'abord le matériau, effectivement, qui est choisi. Et puis, c'est ce caractère... interconnecté, structuré, hiérarchisé, et en même temps à l'intérieur de ces sociétés bronzières, on a des régimes politiques qui sont pas tout à fait les mêmes, l'adoption de l'écriture chez certaines et pas chez d'autres, et donc il y a une diversité. Et en fait, on a un espèce de double effet, à la fois ce monde très ouvert et très connecté, et en même temps des régionalismes qui sont assez marqués, effectivement.
Est-ce que pour vous, il y a un site très emblématique dont vous aimeriez d'ailleurs nous parler et qui incarne très très bien cet âge du bronze ?
C'est très difficile hein, sur les, parce qu'on a des sites de dépôt, on a des sites d'habitat, on a des nécropoles, on a pour ce qui est de l'Europe occidentale, on n'a pas beaucoup de sites très grandioses et très fastueux.
Ouais. Et alors si on déborde un petit peu justement ailleurs,
là il y a des très beaux sites. Par exemple, voilà, ça c'est un site qui est effectivement de cette époque-là, mais on a du bâti, on a des palais, on a de l'écriture. On a quelque chose qui est effectivement beaucoup plus visible et beaucoup plus tangible.
Oui. Pour ceux qui ne savent pas où est Mycène, on peut peut-être le resituer.
On est dans le monde méditerranéen, sur les terres grecques les plus anciennes.
Absolument. L'âge du bronze, ça inspire nos auditeurs et nos auditrices. Anne Leuf, on va tout de suite passer aux questions parce qu'elles sont nombreuses pour vous. Alors j'aime bien Jean-Paul qui rebondit justement sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Si on imaginait des archéologues du futur regarder notre période aujourd'hui, avec quels matériaux justement est-ce qu'ils pourraient comprendre qu'il s'agit bien de notre époque ? Mais il dit l'âge du plastique. Il a raison, c'est vrai.
De fait.
Hein ?
Ah, le plastique, oui.
Ça qualifie parfaitement notre époque.
Tout à fait.
Rien ne serait possible sans ce matériau, dit Jean-Paul. Pas de portable, pas d'ordinateur, pas d'éolienne, pas de photoélectrique. Vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis d'accord avec Jean-Paul.
Eh bien, on est ravis. Où est-ce qu'on peut trouver les plus anciens bronzes ? Demande Philippe. Si on veut aller voir vraiment de très beaux objets, où est-ce qu'il faut aller et où est-ce que ça nous emmène ?
C'est une
dans le temps.
Question complexe. Pour ce qui est de ces régions-là, alors si on veut aller regarder les vestiges les plus anciens qu'on ait à Paris, je ne sais pas où est cette personne, mais on va au musée Guimet.
Oui.
Et on va au musée du Quai Branly. Et entre les deux, on doit pouvoir arriver à avoir quelques satisfactions.
On peut faire son marché.
Quelques satisfactions.
Dominique nous dit, est-ce que vous faites une différence entre les bronzes à l'étain, qui sont un alliage volontairement créé avec des concentrations spéciales pour obtenir une dureté précise, et les bronzes à l'arsenic, qui sont plutôt liés à un hasard des minéraux présents avec le cuivre, et qui correspondraient à du cuivre chargé en impureté. Il s'y connaît, Dominique.
Oui, sauf que Dominique, en fait, on a des cuivres à l'arsenic qui sont des alliages tout à fait volontaires.
Ouais.
Donc, on peut avoir des pourcentages d'arsenic dans certains minerais, mais là aussi, c'est encore un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on a des cuivres à l'arsenic, comme on a des cuivres à l'étain. Donc, ce n'est pas une opposition binaire, toujours pas.
On a des messages également à vous faire entendre. En voici un premier, c'est Luigi.
Bonjour, je m'appelle Luigi, j'habite à Montmorency. Je m'interroge si on sait imaginer comment est venue l'idée aux gens de mettre des morceaux de minerai, des morceaux de pierre à chauffer sur quelque chose pour derrière en recueillir en fait un liquide en fusion et ensuite le forger pour en faire différents outils dont les épées ou les autres objets dont vous parlez. Voici quelques instants. Merci si vous pouvez m'éclairer. Au revoir.
Merci Luigi. Et Annick aussi pose une question dans le même sens. Comment les humains ont compris comment manipuler les métaux pour faire du bronze ?
Alors les humains, en fait, quand ils se mettent à travailler les métaux pour faire du bronze, sont des sociétés, des populations, des individus qui travaillent les métaux depuis très longtemps, qui travaillent la pierre, qui effectivement jouent avec le feu, si j'ose dire, pour fabriquer des céramiques, des terres cuites. Et donc le fait de travailler des matériaux et à un moment donné d'avoir l'idée, alors là, c'est vraiment... le jour, le 1er janvier de l'année 1943 avant notre ère, où tout d'un coup un génie a trouvé la solution, ça marche pas comme
ça. Tout ça, ça prend du temps.
Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis avec des ratés, mais on voit bien que dans les sociétés, il y a toujours, j'allais dire, le bidouilleur du coin qui cherche, qui regarde, qui se dit mais tiens, c'est plus lourd qu'un caillou normal et comment ça marche, qui le met dans un foyer et puis qui constate qu'il y a une évolution de quelque chose. Je pense qu'il y a tous ces mécanismes.
Et à lui seul, ce bidouilleur, il va, sans le savoir, faire avancer l'histoire de l'humanité.
C'est ça.
Quand même,
c'est une collection de bidouilleurs, un groupe de bidouilleurs.
C'est ça. Une confrérie
de bidouilleurs.
Qui fait qu'on a l'émergence d'un nouvel âge.
Absolument.
On a également un message de Clara.
Clara de Charleroi. Je voudrais savoir comment les hommes de l'époque du bronze pouvaient chauffer le minerai de façon à obtenir le cuivre liquide ou l'étain. Merci.
Il y a beaucoup de questions sur la façon de faire.
On a des fours. Alors on a des fours de réduction minière qui montrent suffisamment haut en température et en contrôlant la température. Parce que ça, c'est un des éléments. C'est-à-dire que entre l'accident qui effectivement produit quelque chose qu'on veut pas forcément, mais qui donne des idées.
Et la maîtrise,
il y a effectivement un processus de contrôle, et donc on a des fours de réduction, on a des fours dans l'atelier du bronzier, qui vont servir à chauffer le creuset, parce qu'on a une phase de fonderie, et ensuite on a des fours de recuit, puisque la métallurgie des alliages cuivreux, c'est une étape nécessairement en fonderie, et éventuellement un travail plus ou moins important, qui accompagne avec du martelage à froid, et non pas à chaud, des recuits dans des fours qui sont des structures assez légères. Et donc, ça ne laisse pas forcément des traces très lourdes, cette partie de fabrication.
Philippe nous envoie un autre message. On parle souvent des inventions européennes et moyennes-orientales. Qu'en est-il de la Chine, qui semble avoir été bien plus en avance quand on voit les objets que les Chinois ont fabriqués? Qu'en est-il des relations ou échanges entre ces anciens peuples?
Alors, la Chine n'a pas vraiment plus en avance que nous. Surtout, le système est différent. L'âge du bronze, les productions importantes de l'âge du bronze chinois, c'est essentiellement aussi le deuxième millénaire avant notre ère, comme nous. En revanche, les fabrications ne sont pas les mêmes.
Autre message de Corinne.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le trésor de Fix qui est dans le Châtillonnais? Merci beaucoup.
Anne Leurf, est-ce que vous connaissez ce trésor?
Alors, je veux bien qu'on parle de Vix, mais le Vix, c'est de l'âge du fer, c'est pas de l'âge du bronze.
Voilà, donc c'est pas le sujet. Merci beaucoup pour votre question, Corinne. Ce sera une autre émission, c'est promis. On fera une émission sur l'âge du fer, ce sera peut-être pas avec vous d'ailleurs, en l'occurrence. Johan nous dit, a-t-on retrouvé des traces de fumée des fourneaux dans les glaces des pôles, tout comme les traces des fourneaux à chaud des Romains retrouvés dans les glaces? Ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est la déforestation. Parce qu'il y a une vraie histoire écologique aussi autour de l'âge du bronze. Donc, déforestation, fumée.
Oui. On a des traces, effectivement.
Tout ça, c'est lié, et on
a
des traces.
Tout ça, c'est lié. Effectivement, on a dans les analyses, dans les calottes glaciaires, on a effectivement un marqueur de l'âge du bronze qui indique une déforestation nécessaire non seulement pour une population qui augmente très largement, mais également pour faire tourner justement ces fameux fours.
Ouais. Vous serez en conférence au mois de janvier, Anne Le Herf.
Oui.
Pour accueillir le public et discuter autour de l'âge du bronze, justement.
Alors, discuter l'âge du bronze, ces différents aspects. Savoir, la question, c'est de l'universalisme de l'âge du bronze.
Ouais.
Ce sera aussi à l'occasion de la réfection des collections néolithiques âge du bronze au Musée de l'Homme. Mmh. Et puis, c'est aussi l'occasion, finalement, de mettre en avant le dynamisme des études actuellement sur l'âge du bronze en France, en Europe. Et peut-être qu'on fera un point également à cette occasion sur le problème que le pillage peut poser, ouais, pour cette période.
Donc ce sera le 26 janvier au Musée de l'Homme.
Absolument.
En 2026 donc. Merci beaucoup Anne Le Herf d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Je renvoie sur votre ouvrage dans la collection Que sais-je. On sait tout sur l'âge du bronze en 128 pages. Merci infiniment d'être venue nous en parler. C'était passionnant. Merci également à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier. Et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission. Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de la Terre au Carré. Fabrice Rouel, bonjour. Allô Fabrice. Ah, il sera là dans un instant. Fabrice Ouerel, Affaires Sensibles, juste après les infos.
Avec l'âge, on ne choisit pas d'avoir des cheveux gris, ni de s'endormir devant le film du dimanche soir. On ne choisit pas non plus de voir ses enfants devenus grands quitter la maison et de voir la solitude s'installer peu à peu. Mais ce qu'on peut choisir, c'est de changer ça. En vous engageant dans une activité associative, culturelle ou sportive, ou en faisant du mentorat auprès d'un jeune par exemple. Parce que le lien social est essentiel à votre bien-être, osez vous engager. Parlons santé mentale. Plus d'informations et de conseils sur santémentale.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
France Inter sur les assistants vocaux. Siri, OK Google, Alexa, mais France Inter.
Merci à Anne-Laure Cochet qui était aujourd'hui à la technique. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 15h. Les infos, Amélie Perrier.
Le magazine Time révèle sa une distinguant la personnalité de l'année, les personnalités de l'année en fait pour 2025, puisque le titre a choisi de désigner les architectes de l'intelligence artificielle, parmi lesquels Sam Altman, le patron d'OpenAI, père de ChatGPT, Jensen Huang à la tête de Nvidia, ou encore Elon Musk, patron de xAI. L'IA est assurément devenue l'outil le plus influent dans la compétition entre grandes puissances depuis l'avènement des armes nucléaires, écrit Time. Et pour l'illustrer, une photo de 8 personnalités de l'IA assis sur une poutre métallique comme suspendue au-dessus d'une ville. Reprise de l'image iconique des ouvriers construisant un gratte-ciel à New York.